Grande Femme, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante. Remue-ménage.
Onde femme. Onde femme, c'est sur Radio Zone 93.8. Et c'est tous les mercredis. Bonsoir et bienvenue dans Onde Femme Radio Zone 93.8 et tout de suite de 17h à 18h30, c'est Remue Ménage comme tous les mercredis. Remue Ménage que vous pouvez atteindre en direct si vous le souhaitez puisque nous sommes là prêtes à vous écouter si vous nous appelez au 50 40 51 41. Vous rajoutez un 4, ça c'est nouveau, attention, donc je répète la nouveauté, 4. 50 40 51 41 et 059 si vous appelez depuis la Suisse voisine. Vous pouvez aussi nous soutenir en nous achetant une carte d'auditrice ou d'auditeur au prix de 30 francs suisses ou 100 francs français en faisant tout à fait la même chose, c'est-à-dire nous appelant à ce même numéro, nous donnant votre nom et votre adresse et en échange d'un petit bulletin de versement, nous vous envoyons votre carte d'auditrice ou d'auditeur et c'est bien sûr un soutien très très important que vous donnez à notre radio et dont elle a beaucoup beaucoup besoin. Aujourd'hui dans Remue Ménage, eh bien, nous partons au Nicaragua. Nicaragua où Suzanne Lersch a été appelée en tant que féministe suisse, à être observatrice du moment des élections, avant les élections, pendant les élections. C'était aussi l'occasion pour les femmes nicaraguayennes de réunir des femmes du monde entier pour évoquer certains sujets qui tiennent à cœur aux féministes d'aujourd'hui. Donc c'est de cela que nous parlerons aujourd'hui en compagnie de Suzanne Lersch qui est en direct avec nous dans nos studios à Ferney. Mais tout de suite un peu de musique d'abord et nous découvrons les mots magnifiques même si nous ne les comprenons pas de Sappho de Mytilène, cette poétesse grecque de l'Antiquité chantée par Angelique Ionatos et Nena Venezzano.
Thank you. aerion epeon archo malonadon. Αρχινώ το τραγούδι μου με θέρια λόγια. Μα γι' αυτό κι απαλά στα ακούσμα.
Thank you.
Vous venez d'entendre Nena Venezanou et Angelique Ionatos qui chantaient les paroles de la poétesse de l'Antiquité, Sappho de Mytilène. Bien sûr, c'est des adaptations qu'effectue complètement Angelique Ionatos, qui elle-même a retranscrit en musique ces magnifiques paroles retrouvées, pour celles qui ont été retrouvées, parce qu'il semblerait que les poèmes de Sappho de Mytilène ont beaucoup disparu. Elle était l'objet de toutes les rumeurs et on a beaucoup brûlé ses poèmes. Je vous le disais tout à l'heure, eh bien, nous allons maintenant partir au Nicaragua. Et tout de suite, eh bien, je crois que je vais vous mettre dans l'atmosphère du lieu, l'atmosphère de la campagne électorale, puisque c'était un moment d'élection auquel que vivait le Nicaragua. Et Suzanne Lerche est allée au Nicaragua, appelée comme observatrice. Alors, tout de suite, on va discuter avec elle, mais je crois qu'elle nous propose tout de suite de se mettre dans un morceau de la campagne de Daniel Ortega.
Los chavalos de mi barrio, de todos los vecindarios, van comentando muy claro una onda diferente con el frente. De la esquina, los artistas, mi vecina, me han contado el otro día que un buen tiempo con el frente se avecina. Apúntate la 12 con el frente, apúntate la 12 mero centro, apúntate la 12 con el frente, apúntate la 12 mero centro, apúntate la 12 con el frente, apúntate la 12 mero centro, apúntate la 12 con el frente, apúntate la 12 mero centro.
Ça masse alors, Suzanne, la campagne électorale de Daniel Ortega. Là, c'est le rythme techno pour faire connaître les idées des sandinistes. Qu'est-ce qui se passe là?
Eh bien, il y a eu une campagne électorale très animée parce qu'il y avait énormément d'enjeux. Donc, on élisait le même jour le président, le parlement avec deux types de députés, et tous les maires, tous les conseillers municipaux, ainsi que les participants du Nicaragua au Parlement européen. Et il faut aussi savoir qu'il y avait 23 partis...
Parlement européen ?
Du Parlement centra-américain, pardon, quel lapsus. Et il faut aussi savoir qu'il y avait 23 partis en lice, bon, dont certains étaient très importants, comme l'Alliance libérale et le Front sandiniste, et une multitude de moyens et de tout petits partis qui ont tous utilisé un maximum de moyens, donc musique, spots télévisés, journaux, pour faire connaître leurs idées.
Alors explique-nous, Suzanne, à quel titre tu es allée au Nicaragua? Disons quand même, peut-être d'abord, présentons la chose à nos auditrices et auditeurs de la façon suivante. Tu as vécu durant 5 ans au Nicaragua, il y a de cela... Quoi, 10 ans maintenant ?
Presque 10 ans, oui.
Presque 10 ans. Oui. Donc, menant une vie active dans le projet des sandinistes, à un moment donné, très concrètement, de construction du pays. Et puis, ensuite, revenu chez nous, participer très activement, entre autres, parce que la liste serait longue de tout ce que Suzanne Lerche fait, mais entre autres au mouvement féministe à Genève. Et est-ce à ce titre qu'on t'a appelé au Nicaragua, alors pour être observatrice de ces élections ?
Oui, c'est donc une délégation internationale de femmes observatrices qui s'est formée à l'initiative en fait d'un petit groupe de femmes qui connaissaient bien le Nicaragua pour y avoir vécu. Des femmes qui sont américaines, qui vivent à New York, qui ont eu cette idée et qui ont cherché l'appui donc de quelques organisations du Nicaragua pour monter cette délégation. Donc c'est à ce titre-là que j'avais été invitée. Donc, à participer à une semaine de rencontres diverses qui a eu lieu la semaine qui précédait les élections et à fonctionner comme observatrice le jour même des élections.
Donc, l'invitation portait sur ces deux moments.
L'invitation portait sur ces deux moments, oui, tout à fait.
Quand tu dis des femmes qui connaissent bien le Nicaragua, elles l'ont connu à quel titre ? Par exemple, toi, quand tu étais au NICA, tu as travaillé aussi particulièrement avec les femmes ?
Alors moi, donc, je faisais mon travail professionnel comme architecte dans un ministère du gouvernement sandiniste. Et puis, j'ai participé donc à des multiples activités des femmes donc dans mon temps libre, comme je fais ici. Mais disons que j'ai effectivement des personnes qui me connaissent, qui connaissent un peu mon engagement donc par rapport au mouvement des femmes au Nicaragua, qui ont proposé mon nom pour faire partie de cette délégation.
Et les autres femmes que tu as par exemple rencontrées, qui venaient du monde entier, si j'ai bien compris, donc c'est une délégation internationale, elles aussi d'une certaine façon connaissaient le Nicaragua pour y avoir vécu à un moment donné?
Alors non, la plupart des femmes qui sont venues n'avaient jamais absolument été au Nicaragua. Donc il y avait deux femmes d'Afrique du Sud, il y en avait une du Zimbabwe, il y en avait deux de Palestine, il y avait tout un groupe d'Américaines, il y avait deux Canadiennes. Pour l'Europe, il y avait moi et une femme de Croatie. Il y avait aussi des femmes d'autres pays d'Amérique latine, d'Amérique centrale et des Caraïbes. Mais là, ça a été des contacts. Enfin, moi-même n'étant pas dans l'organisation, je ne sais pas très bien quel avait été le lien ou le réseau qui avait servi à contacter toutes ces femmes. Mais ce sont toutes des femmes actives, donc dans les mouvements de femmes, et particulièrement intéressées par le thème « Femmes et politique ». Donc, qui était le thème que nous avons débattu abondamment entre nous et aussi avec de nombreuses rencontres avec des femmes nicaraguayennes. Donc, soit des femmes juristes engagées justement pour les changements dans la Constitution. Nous avons parlé avec une femme qui est la seule femme à la Cour suprême de justice qui a été élue. Portée par le mouvement des femmes à cette charge, qui est une charge extrêmement élevée. Nous avons rencontré des femmes candidates des différents partis et nous avons rencontré toutes sortes de groupes de femmes qui luttent donc sur tous les thèmes, la violence, la santé. C'était une semaine extrêmement riche d'activités et de rencontres.
Peut-être, Suzanne, est-il nécessaire de préciser à nos auditrices et auditeurs un tout petit peu les étapes de la richesse, de la présence des femmes dans la vie au Nicaragua. Quelle place elles avaient pris au moment où les sandinistes ont pris le pouvoir, où il y a eu toute une forme particulière de construction du pays qui a été proposée, rendue très difficile par les menaces des Contras, par exemple. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé avec la présidence de comment s'appelle-t-elle?
Madame Violeta Chamorro.
Violeta Chamorro, oui. Qu'est-ce qui a changé et a donc quelle position avaient en gros les femmes à la veille de ces élections, quoi, si on peut se rendre compte de ces trois moments?
Oui. Donc, il faut savoir que dans la lutte contre la dictature de Somoza, les femmes avaient été extrêmement actives, donc soit dans la guérilla, soit dans tous les mouvements de soutien urbain. Donc, au Nicaragua comme ailleurs, les femmes participent énormément au mouvement de libération. Ensuite, entre 1979 et 1990, donc sous le régime du gouvernement sandiniste, les femmes ont pris une part extrêmement active à toute la construction en fait, des institutions qui concrétisaient cette révolution. Elles ont pris un rôle extrêmement actif dans toutes les structures de la fonction publique, dans l'éducation, dans la santé. Elles ont eu massivement accès à l'éducation, beaucoup plus qu'avant. Elles sont entrées aussi en très grand nombre à l'université. Elles ont obtenu toute une série de droits qu'elles n'avaient pas auparavant. Et elles ont commencé à constituer leur propre mouvement autonome. Disons que pendant tout le temps de la révolution sandiniste, il y avait l'emprise du front qui était très très grande sur tous les mouvements sociaux. Donc on ne parlait pas tellement d'autonomie des mouvements sociaux, pas plus des femmes que des ouvriers ou des ouvriers agricoles. Parce qu'il y avait en plus une situation de guerre qui rendait, disons, peut-être difficile le développement de mouvements sociaux autonomes qui auraient pu entrer en contradiction avec le gouvernement. Mais disons que tous les germes datent de cette période et l'accès des femmes surtout donc, à l'éducation à partir des processus d'alphabétisation et puis de l'ouverture très large de l'éducation a permis, je pense, cette irruption des femmes. Maintenant, avec la perte du gouvernement sandiniste et l'arrivée au pouvoir d'une femme, d'une présidente, en 1990, qui représente une droite libérale, disons, éclairée, et, comment dire, de bonne éducation, en comparaison avec celle qui va probablement prendre le pouvoir maintenant.
Ce sera à nouveau une femme.
Non, ce ne sera pas une femme. Ce sera toujours la droite, mais ce ne sera pas une femme.
Toujours la droite, ouais.
Donc, durant ces 6 années sous le gouvernement de Madame Chamorro, le mouvement des femmes s'est énormément diversifié, a pris beaucoup de force et d'autonomie. Bon, les femmes ont commencé évidemment à s'organiser pour pallier à toutes les déficiences des services sociaux et de santé. Donc, elles ont développé une quantité de petites institutions absolument impressionnante par rapport à la survie quotidienne des femmes. Elles ont développé un mouvement très très important contre la violence domestique qui a eu une incidence jusque dans la police, la création de commissariats de police spéciaux pour les femmes, tout un travail de prévention avec les policiers. Elles ont développé aussi toute une conception de la santé, toutes sortes de moyens de pression sur le gouvernement par rapport à toute une série d'enjeux comme la mortalité maternelle, comme la dénutrition, comme tout simplement les soins gynécologiques de base. Mais il faut savoir que donc ce gouvernement de droite a entraîné, comme partout, une très très forte diminution des budgets de santé et d'éducation, et qu'évidemment, c'est les femmes qui en subissent le plus rapidement et le plus fortement les conséquences. Donc le mouvement actuel des femmes est aussi une réponse à cette dégradation incroyable des services sociaux, si on veut, d'une manière générale, au Nicaragua.
Et alors, à la veille de ces nouvelles élections, est-ce qu'il y a eu l'espoir à nouveau que le pouvoir change de main, que les sandinistes, la gauche, reprennent la direction du pays et réinstaurent un autre type de système, et quelle part les femmes ont cherché à prendre dans ce moment-là?
Donc, effectivement, le front sandiniste, qui avait peut-être un petit peu subi le contre-coup de sa défaite, a nettement relevé la tête, relevé le défi, et s'est présenté, disons, comme le second parti en termes quantitatifs du pays, qui a cherché à faire obstacle à un nouveau parti de droite, l'Alliance libérale, qui est un parti populiste qui se présente sous des jours très peu honnête et très peu ouvert. Disons qui a une prétention d'éradiquer le sandinisme, qui a un discours extrêmement agressif et revanchard par rapport aux sandinistes. Donc, par rapport à ce contexte-là, le front a relevé le défi de ces élections. Et les femmes, à l'intérieur de ce mouvement, ont essayé d'avoir un maximum de candidates, mais ça n'a pas été malheureusement possible. Les partis, y compris le Front sandiniste, bon, qui quand même est le meilleur dans ce domaine-là, sont relativement quand même peu ouverts aux candidatures des femmes. Et puis, les femmes ont essayé de faire un travail, disons, pour influencer un petit peu l'opinion des femmes de quelque parti qu'elles soient. Elles ont créé ce qu'elles ont appelé l'agenda minimum des femmes, c'est une espèce de liste minimum de revendications qui a été élaborée par les femmes de tous les partis, sauf justement celle de l'Alliance libérale. Et elles ont demandé à tous les partis donc de ratifier cet agenda minimum des femmes. Et aux femmes, elles ont essayé de faire tout un travail d'éducation en leur disant ne votez que pour des candidats qui ont approuvé l'agenda minimum des femmes. Donc, ce qui a été intéressant là, c'est que ça a créé des liens entre des femmes de différents milieux, de différents partis. Ça a été un moment de débat assez intense. Qu'est-ce que nous voulons vraiment en termes très concrets de politique du gouvernement, par rapport à la santé, par rapport à l'éducation, etc.
Et c'est entre autres, alors je suppose, de cela que vous avez parlé dans cette rencontre des délégations des femmes observatrices et des femmes invitées, j'imagine.
Oui.
Et puis bien d'autres choses. Alors, dans quelques instants, on va aborder ce contenu-là.
apúntate la 12 con el frente, apúntate la 12 en mero centro, apúntate la 12 con el frente, apúntate la 12 en mero centro, apúntate la 12 con el frente, apúntate la 12 en mero centro, apúntate la 12 con el frente, apúntate la 12 en mero centro,
en la 12, en la 12,
en la 12 en mero centro.
Campagne électorale de Daniel Ortega, cette musique que vous venez d'entendre. Nous évoquons aujourd'hui les élections au Nicaragua qui avaient lieu le mois passé, au NICA évidemment. Et Suzanne Lersch avait été conviée comme observatrice internationale de ce processus et surtout a participé, et Suzanne, à une grande réunion de femmes pour évoquer le thème femmes et politique. Alors, quels étaient les enjeux de cette rencontre, les objectifs de cette rencontre, qu'espéraient les femmes nicaraguayennes qui vous avaient invité?
Donc l'objectif, je pense qu'il était double. D'une part, il était de permettre la rencontre d'un grand nombre de femmes nicaraguayennes avec des femmes d'ailleurs. Il y a eu un symposium qui a réuni environ 500 femmes qui étaient venues de tout le pays écouter les femmes venues d'ailleurs. Donc c'était très intéressant parce qu'il y avait les femmes notamment d'Afrique du Sud, du Zimbabwe, de Palestine. Il y avait une Mexicaine, il y avait une Péruvienne, il y avait des femmes des Philippines qui ont expliqué dans leur contexte particulier comment elles voyaient les enjeux du mouvement des femmes et la participation des femmes à la politique, donc dans des lieux qui sont justement des lieux qui ont connu récemment des processus de paix ou des processus de changement social importants. Et ça, ça a constitué un moment d'échange très, très fort et qui a été très, très bien reçu par les femmes du Nicaragua qui ont passé toute une journée extrêmement attentive à écouter tous ces exposés qui étaient traduits. Et il y a eu des débats très, très nourris. Donc ça, c'était un des objectifs. Et puis l'autre objectif, c'était effectivement de donner la possibilité aux femmes venues d'ailleurs de connaître la réalité du Nicaragua et d'apporter un soutien symbolique, si on veut, à la participation politique des femmes au Nicaragua. Donc le fait que la délégation était là, pour les femmes, ça donnait une certaine importance justement aux femmes et à tout le travail qu'elles avaient fait de préparation par rapport à ces élections. Même si, il faut bien le dire, que ça n'a pas été l'élection où les femmes, justement, avaient un rôle important dans les partis. Elles savent qu'il faudra attendre les prochaines élections, peut-être, pour vraiment émerger en tant que femme. Il y a eu beaucoup de discussions qui ressemblent aux discussions qu'on a ici. Est-ce qu'il faut créer un parti des femmes? Donc ça a été un des thèmes qui a été abondamment débattu. Est-ce qu'il faut rester dans les partis existants, mais s'organiser d'une manière beaucoup plus efficace pour être en tête de liste? Parce que ça a été le problème, donc beaucoup de femmes se retrouvent en queue de liste. Bon, imposer des mesures comme ce qu'ils ont appelé la tresse, qui a été pratiquée par le Front sandiniste, qui consiste à alterner dans les listes un homme, une femme, un homme, une femme. Mais la tête de liste était presque toujours un homme. Donc, comme la propagande se faisait que sur les têtes de liste, évidemment, les femmes sont passées, en tout cas au niveau des médias, relativement inaperçues, à part une ou deux.
Et donc, c'était pas un hasard qu'elles vous aient réunies à ce moment-là. Elles espéraient que cette rencontre internationale ait un poids quelconque par rapport à leur travail?
Je ne crois pas qu'elles pensaient que ça aurait un impact sur le vote. Mais je pense que c'était une manière d'amener du courage aussi, disons, aux femmes du Nicaragua qui vivent une situation de crise économique, de guerre larvée extrêmement dure. Donc je pense que le fait qu'on était là et qu'on racontait des histoires d'ailleurs, ça amenait, disons, une atmosphère. C'était un encouragement, je pense, pour les femmes qui se battent quotidiennement dans la situation du Nicaragua.